France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Biologiste de l'évolution et anthropologue, elle étudie les animaux pour mieux comprendre l'évolution de l'être humain. Emmanuelle Puy-Debas est aujourd'hui notre invitée. Dès ses travaux de thèse, elle démontre que l'utilisation d'outils n'est pas le propre de notre espèce. Les humains ne sont pas les seuls à savoir fabriquer des objets et à les manipuler avec précision et dextérité. C'est le lot de tous les grands singes, mais aussi d'un grand nombre d'espèces. Macaques, qui utilisent des poils en guise de fil dentaire. Pieuvres, qui se confectionnent des boucliers en noix de coco. Crocodiles, qui élaborent des pièges à oiseaux, sans parler de l'ingéniosité des corvidés qui ne possèdent même pas de main. Pour la chercheuse, l'intelligence animale est plurielle et dans le monde vivant, nous ne sommes pas au sommet de l'échelle. Emmanuelle Puy-Debas, dans la boîte à outils des animaux. Emmanuelle Puy-Debas, bonjour.
Bonjour Natacha, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de recherche CNRS en biologie de l'évolution au laboratoire Mécanismes adaptatifs et évolution du Muséum national d'histoire naturelle. Vous êtes spécialisée dans l'évolution des comportements animaliers. Vous êtes médaille d'argent du CNRS 2019. Soyez la bienvenue et soyez vous aussi les bienvenus, vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez aussi suivre cette émission en nous suivant sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est à retrouver sur notre compte à Science CQFD. Alors, quelle est votre approche de l'étude du comportement animalier? Quels sont les comportements qui vous ont particulièrement intéressé? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre première archive et la rencontre qui a été la plus déterminante pour vous, c'est Lucie, la jeune Australopithèque, co-découverte par Yves Coppens en 1974.
Eh bien, Lucie, en voici la mâchoire. Je choisis la mâchoire parce que c'est celle qui peut être comparée aux autres pièces des autres hommes. Lucie est donc une jeune femme du groupe des Australopithèques. Elle ne fait pas partie, sur le plan zoologique, des hommes. Et ce qui est arrivé depuis, c'est qu'on a trouvé de véritables hommes, les premiers hommes, contemporains et même plus anciens que Lucie. C'est-à-dire que Lucie n'est pas véritablement l'ancêtre de l'homme, mais c'est la cousine, en quelque sorte.
Ça fait presque 4 millions d'années, ça.
Celui-ci a 3 750 000 ans, oui, presque 4 millions d'années, et il vient de Tanzanie. Il y a eu toute une série de découvertes, ce n'est pas moi qui les ai faites, d'ailleurs, ce sont d'autres collègues, à la fois en Asie et à la fois en Europe, d'êtres plus anciens que l'on appelle, d'une manière générale, les Ramapithèques. Autrement dit, au-delà, dans le temps, des Australopithèques, se trouvent leurs ancêtres, parce qu'il faut bien qu'ils descendent de quelque part, qui sont probablement les Ramapithèques.
Voilà, la voix de Yves Coppens dans une archivina de 1980. On peut dire, Emmanuelle Puy-Debas, que le paléontologue a une influence majeure dans votre parcours. Quelle a été votre écoute de cette archive?
Ah ouais, c'est très émouvant d'entendre sa voix. Yves Coppens, c'est un papa professionnel, il le savait, hein, je l'aimais très fort. Je l'ai pas entendu à la radio quand j'étais toute jeune, hein, j'avais 12-13 ans, je l'ai vu à la télé. Et il comptait, là, comme on l'entend là, hein, il racontait ses histoires. Et il parlait de Lucie, et je suis tombée amoureuse de Lucie et de Coppens en même temps. Ça a été un vrai coup de foudre. Et coup de foudre émotionnel, ce qui est, les émotions sont au cœur de mes projets scientifiques. Et depuis le début, et coup de foudre aussi scientifique, parce que Lucie m'a bouleversée, j'ai pas d'autre mot, ça m'a obsédée, Lucie.
Alors justement, qu'est-ce qui vous obsédait chez cette jeune Australopithèque?
Ce qui m'obsédait, c'est d'abord la poésie qu'il y avait autour. Yves Coppens parlait d'une fleur parmi les bouquets de d'hominidés, c'est magnifique, cette façon qu'il avait de présenter les choses, et aussi l'aspect énigme qu'il y avait derrière, puisque Lucie était un Australopithèque, donc elle n'était pas classée dans les hominidés, donc chez les humains, c'était pas un humain. Et ce que j'entendais comme argument pour dire que c'était pas un humain quand j'étais jeune, c'était elle allait encore dans les arbres, elle grimpait encore dans les arbres. Et donc, elle n'avait pas pu inventer l'outil, en gros. Hein. Je fais court, mais il y avait un peu de ça. Hein. Elle était arboricole, pas complètement bipède, un peu, mais pas systématiquement, pas en permanence comme les hominidés, comme Homo habilis. Et ça me questionnait beaucoup, parce que moi qui étais fan de Jane Goodall en parallèle, je me disais, mais c'est curieux, parce que Jane Goodall a déjà décrit des utilisations d'outils chez les chimpanzés. Donc là, il y a quelque chose qui m'a titillé très tôt.
C'est ça, en effet, parmi vos figures tutélaires, il y a donc Yves Coppens, vous lisez ses livres à 11 ans, Le singe, l'Afrique et l'homme, vous lisez, vous dévorez les livres de Jeanne Goudal, Les chimpanzés et moi en 1971, puis ceux de Diane Fossé. Ce qui vous intéresse tout de suite, très rapidement en tout cas dans votre parcours de scientifique, c'est ça, c'est de vous interroger sur les capacités des hominidés et des animaux.
Oui, je me questionnais beaucoup sur cette définition des humains. En fait, quand à l'époque, dans les années 70, je suis née en 73, hein, mais j'ai lu après coup, on découvrait des ossements avec des outils pas loin, on classait ça systématiquement dans les Homo habilis, en fait. Comme si c'était, s'il y avait des outils, c'était forcément l'espèce humaine qui l'avait inventé. Et ça me questionnait, parce qu'effectivement, Jane Goodall avait largement décrit des utilisations d'outils chez les chimpanzés, qui ne sont pas des humains, donc. Hein. Donc je me suis questionnée, et j'en ai fait un projet de thèse un petit peu plus tard. J'en ai écrit un projet de thèse qui était encore à l'état de projet à ce moment-là, où en fait, moi, je pensais tout le contraire de ce qui était avancé à l'époque, et notamment par mon idole, hein, par ma star, Coppens, qui mettait en avant l'aspect savane, et donc l'aspect milieu ouvert, en lien avec la bipédie permanente et en lien avec l'invention de l'outil. Et moi, j'étais convaincue du contraire, que c'était plutôt la vie dans les arbres qui avait permis des bonnes capacités de préhension et par extension, l'invention de l'outil. Et donc, ça pouvait être du chimpanzé ou un animal proche d'un chimpanzé qui avait pu inventer l'outil.
Alors, en effet, Yves Coppens, vous allez le voir, il accepte de devenir votre directeur de thèse, malgré le fait que vous arrivez avec une hypothèse complètement contraire à la sienne.
Ah oui, non, mais là, avec le recul, je me rends compte à quel point j'étais naïve, idiote, enfin, je sais pas comment, ou présomptueuse, je sais pas comment le définir. Mais en fait, avec ce projet de thèse, j'avais candidaté à un prix qui existe toujours. Hein. Je conseille aux jeunes qui nous écoutent le prix de la vocation. C'est la Fondation Marcel Bluchstein-Blanchet qui récompense des jeunes qui ont des vocations. Et c'est une copine qui m'avait conseillé d'y candidater parce qu'elle m'a dit « Mais t'as tout le profil, c'est une vraie vocation que t'as. » Donc j'envoie mon projet de thèse, sauf que dans le jury à l'époque siégeait un certain Yves Coppens. Et donc Yves Coppens est forcément tombé sur mon dossier. Mon dossier a été sélectionné et finalement j'ai commencé cette thèse comme ça en me retrouvant un jour dans le bureau avec un message sur mon répondeur téléphonique d'Yves Coppens. Vous savez, quand votre star vous laisse un message sur votre téléphone, j'ai dû l'écouter 150 fois. J'y croyais pas d'ailleurs. Hein. C'est une copine qui m'a dit « Mais si, je te jure, c'est la voix d'Yves Coppens, mais c'est pas possible. » Je me suis retrouvée dans son bureau. Hein, je suis arrivée 2 heures en avance, j'ai pas dit un mot pendant 1h30, mais j'ai rencontré Yves Coppens, je l'ai écouté, j'ai bu ses paroles, il a accepté de diriger cette thèse. Avec le recul, je trouve ça d'autant plus incroyable et humble de sa part. Et puis d'après, on s'est plus quitté. Même si moi, mon parcours s'est un peu éloigné de Lucie, enfin, plus ou moins par la suite, mais on s'est plus quitté. Et j'ai pu démontrer que l'arboricolie, effectivement, avait eu un rôle très important dans l'invention de l'outil.
Exactement, c'est le cœur de votre thèse que vous soutenez en 2004, thèse intitulée « La préhension chez les primates, approche éthologique, biomécanique et morphométrique ». Et là, donc, en effet, vous validez que les humains sont loin d'être les seuls à manipuler avec précision, dextérité, c'est même le lot de tous les singes. Quelles sont les expérimentations? Comment vous avez mis en place, justement, votre protocole de recherche autour de cette hypothèse?
Je rigolais, je suis honnête, parce que je ne me souvenais plus du titre exact de ma thèse.
J'aime beaucoup les titres
bravo,
de thèse.
Je vous remercie. C'était effectivement très ambitieux. Oui, j'avais décidé, et ça ne m'a pas quitté, de mettre en place une approche pluridisciplinaire pour répondre à ces questions-là. Donc j'ai abordé cette histoire d'utilisation d'outils par le comportement, donc en observant le comportement de manipulation et d'utilisation d'outils chez les grands singes et aussi chez les petits singes capucins qui sont en Amérique latine et au Brésil, entre autres, par une approche biomécanique, parce que je voulais comprendre quels étaient les mouvements associés. Pourquoi ? Parce qu'on associait pouce court et pouce pas complètement opposable, on l'opposait à l'outil, en fait. Il fallait avoir un pouce long, très opposable, et une phalange distale du pouce large pour être capable d'avoir inventé l'outil.
Comme pour les humains.
Exactement. Et moi, je voulais montrer que ça, c'était pas indispensable, en fait. Donc, il y avait aussi une approche analyse du mouvement, disons. Et puis, il y avait une approche paléoanthropologique, puisqu'il s'agissait aussi de faire le lien avec les ossements et notamment avec ceux des australopithèques. Donc je me suis beaucoup... j'ai fait un petit séjour en Côte d'Ivoire pour voir un peu la vraie vie des chimpanzés. J'ai travaillé beaucoup avec des expérimentations d'utilisation d'outils chez des singes en parc zoologique et aussi pour analyser les mouvements. Et puis je me suis confrontée à la mesure des ossements d'australopithèques et puis les résultats sont tombés.
Mais alors cette première rencontre justement avec des chimpanzés en forêt dense de Côte d'Ivoire, comment ça s'est passé?
Incroyable. C'est marrant parce que spontanément, je pense à Lucie en fait. C'est-à-dire que quand j'ai vu mes premiers chimpanzés en forêt dense, faut imaginer un taux d'humidité qui est quand même à plus de 90%. À l'époque, j'étais sportive de haut niveau, donc je pouvais courir longtemps. Aujourd'hui, ce serait plus possible, mais je pouvais courir longtemps. Je suivais ces chimpanzés et franchement, dans mon imaginaire de petite fille, ça ressemblait à Lucie, même si c'est pas un chimpanzé n'est pas Lucie, on est bien d'accord. Hein. Mais c'était extrêmement parlant. Et en plus de ça, pendant à peu près une heure, le chimpanzé qu'on suivait allait toujours vers le nord. Pourtant, il zigzaguait. Il montait, il descendait, il prenait des zigzags. Moi, j'étais en deux minutes, j'étais complètement paumée. Hein. J'avais ma boussole, je savais plus où j'habitais. C'est un milieu très particulier, on n'est pas adapté. Enfin, moi, je ne suis pas adaptée pour ce milieu-là, mais eux, oui. Et j'ai compris tout de suite à quel point la mémoire spatiale était phénoménale chez les chimpanzés et à quel point le milieu et les contraintes du milieu, en tout cas les éléments du milieu, donc la forêt dense, le fait qu'on voit pas très loin, les bruits sont différents, l'humidité n'est pas la même, la respiration n'est pas la même. Tous ces éléments-là avaient forcément joué un rôle très important dans l'évolution des primates et aussi dans l'apparition des capacités de préhension et de manipulation d'outils.
C'est vrai que le milieu arboricole, contrairement à ce qui a été dit jusque-là, a dû jouer un rôle essentiel dans la survie des primates et dans l'émergence de manipulations fines.
Tous mes résultats dès ma thèse ont montré ça. Et même après, j'ai continué à travailler sur la préhension en lien avec le milieu et toutes les espèces arboricoles que j'ai testées avaient de meilleures capacités que les espèces terrestres.
Alors, quelle est votre conclusion aujourd'hui sur le caractère humain de Lucie?
Pour moi, Lucie, enfin d'ailleurs, alors ce qui est rigolo, c'est qu'entre temps, des découvertes paléoanthropologiques et paléoanthropologiques sont allées dans le même sens. Les Australopithèques ont bien sûr, je dis bien sûr aujourd'hui, mais à l'époque, quand je disais bien sûr, c'était beaucoup moins rigolo, utilisé des outils. Il n'y a aucune raison qu'une main d'Australopithèque n'ait pas pu utiliser des outils. Il y a des chimpanzés aujourd'hui qui ont des pouces très courts et qui sont extrêmement habiles dans l'utilisation d'outils. Donc, les Australopithèques ne sont pas des humains pour plein de raisons justifiées au niveau morpho-fonctionnel, par exemple. Mais au niveau du comportement, ma foi, il y a des choses qui sont relativement proches. Et moi, pour moi, dans ma tête, Lucie, elle avait utilisé des outils. Hein. Moi, il ne fallait pas me dire que Lucie, elle n'avait pas été capable d'utiliser des outils.
C'est ça, c'est que votre test conduit a confirmé que rien ne pouvait l'empêcher d'utiliser des outils, c'est même ça. Avec son pouce court et fin.
Exactement.
Elle aurait pu être même une des premières inventeurs d'outils.
Exactement. Après, c'est dans la fabrication même des outils, la puissance liée au pouce, elle est importante, mais pour certaines utilisations d'outils, elle n'est pas importante du tout, sans compter qu'il y a plein d'outils qui sont périssables et qu'on ne découvrira jamais.
Alors, il n'y a pas que les singes et les primates qui sont dotés d'une telle dextérité, mais qu'en est-il des autres mammifères et les oiseaux? Comment se débrouillent-ils? Restez à l'écoute, on y arrive.
Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous nous entretenons tout au long de cette heure avec Emmanuel Puy-Debat, biologiste de l'évolution, qui travaille sur des aspects anthropologiques, mais aussi qui travaille sur de la biologie évolutive, de la biomécanique, de l'anatomie, de la paléoanthropologie, de la génétique. Alors on vient de parler de votre thèse, l'outil n'est pas le propre de l'humain, ni spécifique à la savane. Emmanuel Puy-Debat, on a parlé également de l'importance de la compréhension du milieu dans lequel vivent les espèces. Vous êtes amené à travailler dans différents types de milieux.
Ah oui, alors dès qu'on s'intéresse à une question scientifique, on va aller travailler dans le milieu qui nous permet de la tester. Donc quand on travaillait sur l'utilisation d'outils, j'ai eu des doctorantes que j'ai après encadrées et qui ont continué à travailler sur la préhension, la manipulation et l'utilisation d'outils. Voilà, on était amené à travailler en parc zoologique parce qu'on voulait comprendre la dextérité précise des doigts chez les grands singes. Donc on s'est amusé à fabriquer des labyrinthes, donc ils allaient fabriquer leurs outils, récupérer les noix au travers des obstacles du labyrinthe. Et puis une autre question, et ça s'enchaîne en permanence en fait. Quand on a fait cette expérience-là, on s'est rendu compte que chez les bonobos, les chimpanzés, les orang-outans, enfin toutes les espèces qu'on a testées, ils y arrivaient tous en fait. Il n'y avait pas de problème de dextérité au niveau des doigts, ils pouvaient manipuler à l'intérieur même de la main. Et il y a Et pour vous donner un exemple de conséquences, pour vous montrer l'enchaînement des idées, bah, par exemple, chez les bonobos que nous avons étudiés, les individus qui arrivaient le mieux, c'était des femelles. Je vous cache pas qu'au début, on a été tenté de dire que les femelles étaient plus intelligentes que les mâles. Ça, nous, d'ailleurs, on s'est pas empêché de le dire, sauf que si en étant 100% honnête, on s'est rendu compte que c'est parce que le contexte dans lequel était fait l'expérience conduisait les mâles à être hyper stressés, parce que les femelles étaient dominantes sur les mâles, et donc ils étaient très stressés, et donc ils avaient moins de temps pour accomplir la tâche, donc ils y arrivaient moins bien. Bon, voilà, une question en engendre une autre. Tiens, les émotions peuvent avoir un effet sur la réussite de la tâche. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fascinée, parce que quand on travaille sur l'évolution de l'intelligence, pour faire court, on s'intéresse très peu en fait à l'effet des émotions. Et je suis convaincue que les émotions ont probablement eu un effet très important dans l'évolution de la cognition, qui a été largement sous-estimé. Donc du coup, après on est parti sur quoi ? Enfin, moi je suis partie avec, j'entraîne souvent des étudiants avec moi maintenant, sur c'est quoi le lien entre les émotions et la cognition ? Entre les émotions positives qu'on peut avoir et négatives, par exemple, on sait très bien que, enfin moi je sais très bien que quand j'avais un contrôle de maths ou d'autres choses, on s'en fout, une rédaction, si vous êtes un petit peu stressé, ça va vous motiver, vous allez avoir plus d'attention, plus de concentration, et donc vous allez être meilleur. Mais si le stress il est trop important, au contraire, ça va faire tout l'effet inverse. Ça c'est ça qu'on essaie de comprendre en fait, et puis évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a plein de nuances. Et puis dans ces expériences de labyrinthe, qu'est-ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'il y avait des individus qui avaient des personnalités différentes. Vous avez des individus qui sont timides, on va dire timides, d'autres qui sont beaucoup plus exploratoires, beaucoup plus explorateurs. Ils vont pas avoir peur d'aller vers de nouveaux objets ils vont pas avoir peur des nouveaux dispositifs qu'on va leur proposer. Donc ça a donné quoi ? Ça a donné un autre projet sur la personnalité animale. Vous voyez, tout fonctionne un petit peu comme ça. Et c'est ça qui est fascinant dans notre métier, c'est que à chaque expérience, vous avez une question au départ, puis une, puis deux, puis trois, puis vous finissez l'expérience. Des fois, vous avez même oublié la question que vous étiez posée au départ, parce qu'il y en a tellement d'autres qui viennent. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est infini, en fait.
Mais la question que je voulais vous poser, vous parlez justement du fait que les émotions ont été sous-estimées dans le champ de recherche qui se penche sur la cognition animale. Pourquoi ? Pour quelles raisons ?
Je pense qu'on est parti du... Et pourtant, ça a été évoqué dès l'Antiquité. Darwin en avait remis une couche. Je pense qu'on... On a quand même parfois du mal à imaginer, c'est pas très scientifique mais c'est pas grave, à imaginer que d'autres espèces animales que nous peuvent avoir des capacités, alors pas identiques, le but c'est pas de montrer que c'est identique, mais en tout cas qui pourraient être comparées. Les émotions, depuis une dizaine d'années, certains osent dire que oui, bien sûr, les autres animaux ont des émotions, mais enfin bon, pas aussi complexes que les nôtres. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut toujours qu'il y ait un petit quelque chose. Moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, ils ont leur vie à eux. Il y a des choses qu'on comprendra jamais, parce que quand je travaille sur les orang-outans, je me réveille pas orang-outan. C'est ce que je dis. J'aimerais bien, mais c'est ce que je dis tout le temps. C'est que bien sûr qu'ils ont tout un panel d'émotions. Ils ont tout un panel d'émotions, et c'est justement ce qui est ça aussi, c'est un autre enjeu dans mes projets de recherche en ce moment, c'est comment les détecter, ces émotions. Parce que avant de les comprendre, il faut être capable de les détecter. Et bien sûr, quand nous, on travaille sur les émotions chez les humains, ça m'arrive aussi, on regarde les expressions faciales, etc. Mais chez les animaux, il y a des animaux qui n'ont pas du tout d'expression faciale. Donc, alors, ils en ont, mais pas détectables à l'œil nu. Là, l'intelligence artificielle peut nous aider, par exemple. Donc, c'est tout un... C'est infini.
Bien, en effet, on voit qu'il y a ces questions des émotions animales, des intelligences animales, mais aussi de la culture animale. On va écouter les mots de Jeanne Goudal.
J'ai écrit un article pour un magazine scientifique, pour la revue Nature, sur l'utilisation des outils pour les chimpanzés. Et j'ai osé suggérer que probablement, dans différentes régions d'Afrique, les chimpanzés utiliseraient différents outils. Parce que j'ai vu et observé de près ce que faisait leur mère, et j'ai vu que les petits observaient leur mère pour l'imiter. Et c'est la définition d'une culture, l'idée qu'un comportement est transmis d'une génération à la suivante par l'observation et l'imitation. Donc, je posais l'hypothèse, je devinais que les chimpanzés de différentes régions pouvaient avoir des cultures différentes. Et les autres scientifiques étaient bien sûr choqués, car la culture était spécifique aux humains. Eh bien, au final, on s'aperçoit que beaucoup d'autres animaux ont également une culture.
Voilà, la primatologue Jeanne Goudal, que nous avions eu la chance de rencontrer en 2022 et qui nous a quitté le 1er octobre dernier. Emmanuel Puy-Debas, comment vous faites réagir les mots de cette chercheuse?
Je comprends tellement. Je comprends tellement parce que finalement, et en plus elle est extrêmement prudente dans ses propos.
J'ai osé.
Et en plus elle a juste osé proposer une hypothèse. Je veux dire, elle a osé proposer une hypothèse. Enfin, on marche sur la tête. Je sais pas, 52 ans, je commence à être révoltée. Toute hypothèse est bonne à poser. Je le dis aux jeunes qui nous écoutent, toute hypothèse est bonne à poser. Après, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour la tester? Ça, c'est autre chose. C'est pas de l'anthropomorphisme que de te poser des hypothèses. À chaque fois, on a peur. Moi, je sais que voilà, pour certains, on a peur d'être taxé d'anthropomorphisme. Mais c'est pas grave. Il y a l'anthropodénie dans la lignée de Jeanne Goudal. Franz De Waal le disait très bien. Il y a un moment donné, il faut arrêter de nier que certaines choses existent ailleurs. Il y a des comportements pour lesquels on est meilleur. Il s'agit pas de rabaisser l'espèce humaine. L'espèce humaine, elle est extraordinaire en termes de créativité. Bon, il y a pas que du positif. Mais en termes de créativité, on est extraordinaire. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ne pas se voiler la face par rapport aux capacités des autres animaux. Et toute hypothèse est bonne à poser. La culture, évidemment.
Alors, Jeanne Goudal, en effet, pose l'hypothèse qui sera vérifiée que nous n'avons pas le monopole des outils. Alors aujourd'hui, on estime qu'il existe 1 211 612 espèces. Mais alors, à quel point la dextérité, la manipulation d'outils est quelque chose de répandu dans le monde vivant?
C'est intéressant comme question. En fait, selon les définitions de l'espèce, qu'on n'arrive toujours pas à définir, et ça se bagarre beaucoup, chez les biologistes, on est entre 2 et 10 millions d'espèces. Il y en a même qui pensent qu'il y en a beaucoup plus. Mais en fait, il faut juste penser qu'il n'y en a que 10 000 de décrites. Et quand je dis décrite, c'est pas forcément sur tous les plans, genre comportement, plus morpho, plus anatomie, etc. Donc finalement, quand je dis tout reste à découvrir et qu'on me dit mais non, t'exagères. Non, j'exagère pas en fait, si on leur laisse le temps, ça c'est une autre question. Mais l'outil, c'est assez bien représenté, même s'il y a finalement, par rapport à ces millions d'espèces, il n'y en a pas tant que ça qui utilisent des outils. Par contre, c'est relativement bien représenté. Ce que j'entends par là, c'est que ça va des invertébrés, ça va de certaines guêpes, par exemple, qui vont utiliser de la terre amalgamée pour taper au sol, pour tasser la terre, par exemple, jusqu'aux éléphants, en termes de taille, en termes de distance évolutive, disons, pour faire simple, qui vont parfois prendre dans leur trompe une petite baguette pour se nettoyer les orteils. Donc, c'est extrêmement varié. Il y en a aussi chez les reptiles. Alors, ça aussi, j'adore, dans la liste des idées reçues, ça j'en parle beaucoup en conférence, les reptiles sont pas souvent pour des andouilles, appelons un chat, c'est complètement faux, c'est juste qu'ils n'ont pas été assez étudiés dans ce sens-là, on est en train d'y remédier avec une collègue, Marion Segal, pour les serpents par exemple, les crocodiles, ils savent, les crocodiles et alligators, et c'est pas toutes les populations qui font ça d'ailleurs, donc est-ce qu'il n'y aurait pas je lance un pavé dans la mare, est-ce qu'il n'y aurait pas des traditions chez les crocodiles à creuser, mais les mâles, les femelles aussi d'ailleurs, se mettent des branches sur la tête qui intéressent les aigrettes. Ce sont des oiseaux qui, au moment de la nidification, vont aller chercher des branches très, très spécifiques pour faire leur nid. Et donc les crocodiles et certains alligators ont bien remarqué ça. Ils se mettent les branches sur la tête, ils descendent légèrement sous l'eau et restent en surface ces branches. Et en fait, ils se positionnent comme ça pour que ça produise un appât. Ça propose un appât pour l'aigrette. L'aigrette arrive, veut attraper la branche et se fait capturer. Ça marche pas tout le temps, mais ça marche assez souvent. Donc voilà, c'est ce que je trouve génial dans l'étude des comportements qui sont liés à l'outil, c'est qu'en fait, il y a plein d'espèces différentes que vous pouvez étudier, et ça, c'est génial. De trouver comment un animal va trouver une solution à un problème alors qu'il a des tentacules, une trompe ou un bec, eh ben voilà, ça c'est assez intéressant.
Alors, des animaux à bec qui sont capables de résoudre des problèmes, je pense aux corvidés, on a pléthore d'expérimentations qui ont été conduites avec eux, et notamment celle assez hallucinante quand même du tube, de l'eau et de la graine qui flotte.
Ouais, ça c'est génial parce que pour l'avoir fait chez des humains, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont trouvé la solution. En fait, il faut imaginer l'expérience où donc c'est un tube avec de l'eau qui est à peu près un quart ou un tiers du tube et une graine est mise dans le tube, donc elle flotte et ce tube est proposé à différents corvidés, il y a les freux qui ont été testés, les corneilles aussi, donc ce tube est proposé avec des cailloux à côté parce que l'idée c'est que justement l'oiseau ne va pas pouvoir récupérer cette graine parce que son bec est trop court, donc l'oiseau regarde souvent avec le même œil d'ailleurs, enfin ça c'est une autre question, mais il observe le dispositif et puis c'est dès le premier essai, c'est extrêmement rapide, il prend les cailloux, et il les met dans le tube. Ce qui a pour effet de faire monter la surface de l'eau et de récupérer la graine. Mais ce qui est génial dans cette expérience, c'est déjà, un, c'est trouver la solution, parce qu'encore une fois, c'est pas si évident que ça. Et ce qui est encore plus génial, c'est que dès le troisième essai pour l'expérience à laquelle je pense, au lieu de mettre 9 cailloux, l'oiseau va en mettre qu'un seul. Il a très bien compris qu'en mettant le plus gros, le plus lourd, ça va remonter plus vite. Et il y a tout un panel d'expériences comme ça chez les corvidés qui montrent qu'ils ont une parfaite connaissance des textures, de la masse, de la densité, etc., qui sont assez fascinantes. Hein. Ça, c'est encore cervelle d'oiseau, je peux vous dire, qui est petit mais costaud.
Cervelle d'oiseau, là, on a quelques exemples, en effet, qu'on vient de dire, hein, sur, en tout cas, d'utilisation d'outils dans un contexte de chasse, dans un contexte d'hygiène. On a aussi, donc, en effet, hein, ces orang-outans qui se nettoient les ongles avec des petites branches. Et puis, on a aussi l'utilisation d'objets dans un cadre de séduction. Et ça aussi, chez les oiseaux, c'est assez truculent.
Oui, alors là aussi, les oiseaux, c'est vraiment un groupe assez fascinant pour plein de raisons, les oiseaux. Pour la séduction, ce que je trouve assez fascinant, c'est... Alors, on va donner un exemple très concret, par exemple, chez les oiseaux jardiniers, que je trouve incroyable. Il y a plusieurs espèces d'oiseaux jardiniers. Il y en a qui font des tonnelles, d'autres qui font des huttes. Pour ceux qui font des huttes, donc c'est les mâles qui font... Donc, c'est une hutte, ça leur prend des jours. Hein, c'est des jours et nuits, c'est impressionnant hein, en termes de coûts. Donc, ils font des huttes en bois, hein, avec des branches entrelacées, et ils font un parterre avec des thématiques de couleurs. Ça peut être du rouge, du rose, du orange, du violet. Ils vont chercher pour ça des pétales de fleurs, des baies, etc. Et les femelles, donc, vont être attirées ou pas par la proposition du mâle. Déjà pour cet exemple-là, ce que je trouve assez génial, et ça, j'ai la même réflexion quand je pense aux oiseaux paradisiers, les mâles qui font des danses absolument extraordinaires pour séduire les femelles. En fait, systématiquement, quand on raisonne en biologie de l'évolution, on va se dire, ok, qu'est-ce que la femelle va utiliser comme critère pour sélectionner le mâle, un critère ou un indice qui pourrait être un bon indicateur, si vous voulez, que ce sera un bon reproducteur. Sauf qu'à aucun moment on se dit, mais peut-être que certaines propositions vont les mouvoir. Il n'y a rien d'aberrant à proposer comme hypothèse qu'il y a de l'émotion, puisqu'on sait que chez certains oiseaux chanteurs, il y a des émotions qui sont créées quand ils chantent ou quand ils entendent certains chants. Donc ce n'est pas aberrant de proposer que, oui, bien sûr, peut-être, probablement qu'elles cherchent des critères de succès reproducteur, mais il y a peut-être des émotions. Et chez les oiseaux jardiniers, il y a une autre espèce qui crée, alors lui, vraiment une perspective, hein, ça a été démontré, hein, des vrais critères de la perspective, comme à la Renaissance, sans dévaloriser les génies de la Renaissance, où vous avez un oiseau jardinier qui va créer toute une tonnelle et de part et d'autre, il va mettre des objets de tailles différentes, de proportions différentes pour créer une illusion d'optique à la femelle qui va donc s'engager malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, dans la tonnelle et retrouver le mâle.
En tout cas, je ressens beaucoup d'émotion quand j'entends le chant d'un grand séducteur qui est le cacapo. Le cacapo, c'est ce perroquet de nuit en maori, c'est le plus lourd perroquet du monde, jusqu'à 4 kilos quand même. Et il ne sait pas voler, mais en revanche, il sait faire ça. Alors ça, Emmanuel Puy-de-Bas, en fait, bon déjà ce cri est inimitable, mais en fait il crée une cuvette pour amplifier son cri, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, c'est ça. Alors on va pas se lancer dans ce que c'est que la définition de l'outil à proprement parler, mais en tout cas, il crée une cuvette, en fait ça lui permet de créer une sorte de caisse de résonance pour amplifier le son, en fait. Il y a des animaux qui ont déjà les organes qu'il faut. Je pense aux les gibbons chez les primates, les gibbons, les siamangs, ce sont des singes qui chantent très très bien. C'est le chant du gibbon, c'est extraordinairement beau, quoi. Mais ils ont leur propre caisse de résonance. Des grenouilles, c'est pareil. Vous avez des grenouilles qui ont leur propre caisse de résonance. Le cacapo, lui, pour amplifier ça, il va aménager son environnement. Et ça, c'est vrai que c'est génial.
Il enlève toutes les brindilles. Il fait un environnement acoustique parfait. Il peut produire ses booms pendant environ 8 heures chaque nuit durant 3 ou 4 mois. Et les femelles peuvent l'entendre jusqu'à 5 km.
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand je vous écoute, j'entends le chant lexical de l'art, en fait. Il y a plein d'animaux comme ça qui sont en fait comme en représentation. Il y en a même qui vont répéter devant un autre mâle avant de le présenter à la femelle. Donc il y a tout un vocabulaire comme ça qui montre que finalement c'est du vocabulaire lié à l'art. Donc voilà, osons.
Osons. Vous avez osé aussi également. On parle du vocabulaire d'art, mais d'ailleurs vous avez aussi fait un doc d'histoire de l'art et vous avez publié Animaux artistes. Mmh. Alors là encore, c'est pour montrer qu'il y a bien plus de choses partagées avec les animaux qu'on ne le croit.
Oui, c'est ça. Moi, je pousse à réfléchir sans aucune limite, en fait. Il faut réfléchir sans aucune limite. Après, la limite de la science, c'est de démontrer. Voilà, on a une hypothèse, on la démontre. Mais il n'y a pas de limite dans les hypothèses. Pour moi, quand j'ai fait mon doc d'histoire de l'art, et aussi d'anthropologie en parallèle, on nous expliquait que les origines de l'art, c'était la préhistoire. Donc, c'était les peintures rupestres, les gravures, etc. Et oui, que les origines de l'art humain, on est d'accord. Mais les prémices, ils sont ailleurs. Encore une fois, je vous parlais du jardinier. La perspective, elle a été inventée, entre autres, par le jardinier. Bien plus ancien, les origines des jardiniers, il faudrait que je révise la phylogénie des oiseaux, mais c'est des millions d'années avant la perspective humaine. Et ces choix esthétiques aussi. On sait que certains individus vont préférer des couleurs plutôt que d'autres. Donc il y a des choix individuels au sein d'un même groupe, pour la même espèce, qui sont faits et qui démontrent qu'il y a peut-être aussi des choix esthétiques qui sont faits.
Et en effet, on n'a pas évoqué le cacatoès noir qui n'a pas de couleur chatoyante, mais qui a trouvé une autre stratégie. Génial. Il tient un bâton dans sa patte et tape les branches pour se faire apprécier de la femelle, en quelque sorte. Il joue de la batterie. On continue avec ce rock pour perroquet.
Frustration as a fate, but the gods had no picture. You study in the past and you mastermind the future. We all dreamt our eyes, but we kept waiting for permission. You have a head full of fire that you won't win the election. So listen to the words the parrot says and try to repeat. Listen to the words the parrot says and try to repeat. Three babblers in the night, sending out the same pollution. Ever last thoughts for the light, before darkness wins the auction. We're poets in exile, and we were cracked little smokers. This is written in a file by someone in the ghetto. So listen to the words the parrot says and try to repeat. Listen to the words the parrot says and try to repeat. Is this a terminal world or just dripping entertainment? Just cries that I heard and it was coming from the basement. So listen to the words the parrot says and try to repeat. Listen to the words the parrot says and try to repeat. Listen to the words the parrot says and try to repeat.
Nicolas Michaud, parotte, parce que nous parlons de perroquets, de cacapotes, de lémuriens, de gorilles, d'éléphants. On parle des capacités cognitives et fonctionnelles des animaux en compagnie de notre invitée du jour, Emmanuelle Puy-Debat, directrice de recherche CNRS en biologie d'évolution au laboratoire MECADEV du MNHN et spécialisée dans l'évolution des comportements animaliers. On vient de voir que vos recherches portent sur ces capacités de préhension, de manipulation, d'utilisation d'outils chez un très grand nombre d'espèces. Mais maintenant, comment définir l'intelligence animale, ou peut-être devrions-nous dire les intelligences animales au pluriel?
Oui, ça c'est sûr, il faudrait commencer par là, effectivement, vous avez raison. Les intelligences animales, parce que l'intelligence elle est plurielle et elle est partout. Quand on essaye de... D'ailleurs, quand on me pose la question, est-ce qu'un chimpanzé est plus intelligent qu'une girafe, ça n'a pas de sens, parce que pour chaque espèce, vous avez une immensité d'intelligences différentes, et même pour chaque individu. Donc ça n'a pas de sens. Après, comment la définir? Si vous mettez 20 personnes, 20 scientifiques dans une pièce, vous aurez 20 définitions différentes. Moi j'ai une vision, je suis dans un laboratoire qui s'intéresse aux mécanismes adaptatifs. Donc j'ai une vision très adaptative de l'intelligence. Donc, alors il y a un critère qui est quand même important, qui vient de l'éthologie, de la psychologie cognitive, c'est la résolution de nouveaux problèmes. On considère qu'à partir du moment où il y a un problème qui est nouveau, et qu'on arrive à le résoudre, c'est qu'on fait preuve d'une certaine flexibilité, d'une certaine capacité à trouver réponse à quelque chose qui est nouveau. Mais d'une manière plus générale, j'ai envie de dire, ça va être un ensemble de comportements qui vont permettre à un individu, et a fortiori un groupe ou une espèce, de s'en sortir, en fait, hein, de trouver la solution à leurs problèmes pour survivre.
Là, par rapport justement à vos études sur ces capacités de dextérité, comment techniquement ça se mène? Parce que je lisais en préparant cette émission que vous avez rencontré quelques problématiques avec notamment les orangs-outans. Ce serait un bon exemple pour parler justement de dextérité et d'intelligence animale.
Oui, alors les orangs-outans, quand vous partez pour travailler sur les orangs-outans, vous savez qu'il va y avoir beaucoup de péripéties. La première qui me vient, c'est la toute première que j'ai vécue, du coup, j'en vois une deuxième là qui n'est pas si vieille que ça. Mais la première, c'est que en fait, quand j'ai commencé, c'était pendant ma thèse, j'observais les orangs-outans, je voulais comprendre leur capacité de manipulation, parce que alors eux, en termes de pouce, ils ont un pouce extrêmement court. Et donc tous les matins, j'arrivais, ça, c'était aux eaux de Beauval, il y a longtemps, mais c'était aux eaux de Beauval. Et donc je me plaçais devant leur enclos pour de longues heures d'observation. Et puis ça me chatouillait toujours au même endroit, au niveau de l'oreille gauche. Je m'en souviens très très bien. Ça me chatouillait au même endroit. Puis comme c'est une serre tropicale, il y a quand même pas mal de moucherons, etc. Donc voilà, je me touchais l'oreille, je me grattais l'oreille. Et puis quand même, au bout de quelques jours, mon intelligence humaine a été très longue, mais elle a fini par arriver. J'ai tourné la tête. Et là, je me suis rendu compte que dans le couloir, j'avais même pas vu qu'il y avait un couloir en haut, en fait, grillagé, dans lequel il y avait une femelle orang-outan qui s'appelle Christina, qui avait en fait une grande branche et qui s'amusait à me chatouiller l'oreille tous les matins quand j'arrivais. Donc après, ça a été un petit jeu entre nous. Je n'ai d'ailleurs pas pu étudier Christina parce que nous avons tissé trop de liens avec Christina. Mais bon, c'était génial. Et la deuxième aventure qui me vient, c'est Ameline Bardot, qui a été une de mes premières doctorantes, qui est aujourd'hui chercheuse. D'ailleurs, je lui fais coucou. Quand elle a étudié à son tour l'utilisation d'outils chez les grands singes et qu'elle a étudié les orangs-outans, on a vite été limité parce qu'il fallait leur donner des branches pour faire ce fameux labyrinthe, récupérer les outils, récupérer la nourriture, etc. Mais en fait, ils utilisaient les branches pour enlever les boulons et tous les joints de leur enclos. En fait, ils étaient en train de déboulonner leur enclos avec nos outils, donc on a arrêté tout de suite. C'était pas possible. Là, ils sont extrêmement créatifs. Par contre, c'est fantastique à observer, forcément.
Alors, une autre capacité de préhension impressionnante, c'est celle du pangolin. Et je vous propose une lecture, un extrait de votre atlas de zoologie poétique paru aux éditions Artaud en 2018. Pour avoir eu la chance d'en observer de très près, je me permets d'avancer sans hésitation que le pangolin est un animal époustouflant. C'est un mammifère très créatif. Lorsqu'il s'agit de se défendre, il s'enroule en boule, tête entre les pattes, pour se protéger des attaques de grands carnivores comme les léopards ou les tigres. Il faudra ensuite une force considérable pour le dérouler. Un humain n'en est pas capable. La puissance de préhension de ses mains et de sa queue, qui représente jusqu'à 65% de la longueur totale du corps, est impressionnante. J'ai pu m'en rendre compte personnellement le jour où une madame pangolin ne voulait plus quitter mon bras autour duquel elle s'était enroulée. Allez donc expliquer à un pangolin que vous aimeriez bien rentrer chez vous quand lui est confortablement installé. Ce n'est pas chose aisée. Seule solution, la patience. Outre cette puissance de préhension, le pangolin, aidé de sa queue, pratique également la bipédie et s'avère un bon nageur occasionnel. Le pangolin possède une autre singularité. C'est une véritable machine à dévorer les insectes. Il est pourvu d'une longue langue protractile pouvant mesurer 40 cm chez le pangolin géant, couverte d'une salive visqueuse et sur laquelle s'engluent les insectes. Un adulte peut consommer plusieurs milliers de fourmis par jour et 70 millions d'insectes en un an. Ses paupières épaisses, des valves hermétiques dans le nez et les oreilles, ainsi que ses écailles, le protègent des piqûres et de l'intrusion des insectes. Comme les pangolins ne mâchent pas au niveau de la bouche, le tissu interne de leur estomac est recouvert de dents cornées, permettant la dilacération puis la digestion des insectes. Comme si cela ne suffisait pas, les pangolins avalent des petits cailloux pour finir de broyer leur repas. Quel animal étonnant! Malheureusement, le pangolin est le mammifère le plus menacé au monde par le braconnage et le commerce illégal. Il est davantage braconné que les éléphants et les rhinocéros réunis. Voilà un extrait de votre ouvrage qui est tout à fait passionnant et qui montre aussi combien face au saccage des écosystèmes et de la biodiversité, on perd un nombre d'informations j'imagine, j'imagine même pas d'ailleurs, impressionnante.
Ouais. Oui, c'est triste, on perd un puits de science, un puits d'émotion, un puits d'émerveillement, on perd tout ça en fait. Le pangolin, c'est, si je me souviens bien, je me souvenais pas, pour être honnête, de la totalité du texte. Et à réécouter ça, et c'est moi qui l'ai écrit, je suis de nouveau émerveillée, c'est magnifique, c'est magnifique, ces animaux-là sont extraordinaires. Un mammifère à écailles et sans dents, il me semble que j'avais dû titrer ça. C'est rien que le titre. Vous dites ça à un enfant, il a les yeux écarquillés. Moi, j'interviens beaucoup dans les écoles. Je trouve ça. Ouais, c'est avant tout de la tristesse en fait qui me vient. C'est bien sûr c'est dramatique pour la science, pour les questionnements scientifiques, pour la connaissance, pour plein de choses. Mais c'est avant tout de la tristesse. Ce sont des êtres vivants qui sont incroyables. C'est des puits de savoir et de tendresse à transmettre. Et c'est triste.
Ça me fait penser également à cet autre livre que vous avez publié, Quand les animaux et les végétaux nous inspirent, sur l'importance justement de l'étude de la biomécanique animale pour justement des perspectives très humanistes du biomimétisme.
Bien sûr, c'est ça aussi, ça fait partie de la tristesse de cette baisse de la biodiversité, parce qu'on peut s'en inspirer pour plein de choses. Moi qui travaille beaucoup sur l'appréhension et la manipulation, j'ai un projet sur les éléphants qui a quelques années maintenant, où on a mis en place plein de protocoles. Enfin, déjà on les a étudiés in situ, comme on dit, dans leur milieu naturel en Afrique, mais aussi en parc zoologique, pour comprendre vraiment cet organe extraordinairement polyvalent qui est la trompe. Un éléphant, ça peut vous déraciner un arbre, mais ça peut aussi manipuler des tout petites graines, des tout petits objets. Et donc, pour essayer de comprendre vraiment l'anatomie en lien avec les mouvements, les forces que la trompe peut exercer, enfin pour vraiment décortiquer toute cette complexité, ça nous a permis de comprendre un petit peu l'évolution des éléphants, parce qu'à la base, les premiers éléphants, il y a plus de 50 millions d'années, a priori, je dis bien a priori, ils n'avaient pas de trompe. Donc c'est après que ça s'est diversifié. Et ça, cette polyvalence de la trompe, il peut aussi soulever une pastèque par aspiration. Ça vous donne une idée. C'est vraiment un organe extrêmement polyvalent. Ça intéresse les roboticiens qui ont besoin de créer des robots préhenseurs dans des milieux où ça peut être dangereux pour les personnes. Donc, voilà, ça, ce sont des applications industrielles pour la sécurité des personnes, mais il y a des applications écologiques aussi. On a des collègues au muséum, entre autres, qui travaillent sur les papillons morphos, dont les ailes peuvent supporter des chaleurs extrêmes. Et la structure des ailes, les écailles, enfin, c'est d'une complexité impressionnante et qu'on n'arrive pas à reproduire d'ailleurs. L'idée, c'est pas de reproduire. C'est pour ça que je préfère d'ailleurs parler de bio-inspiration. C'est plus on s'inspire, parce que reproduire, c'est trop complexe. On ne peut pas reproduire la nature. Mais donc, ces papillons morphos, l'étude de leurs ailes va, j'espère, conduire à de nouvelles générations de panneaux photovoltaïques qui pourront peut-être résister à de plus hautes températures.
Puis aussi ces travaux qui portent sur la biomécanique de la langue des lézards ou des pattes des geckos et qui peuvent mener à de nouveaux matériaux adhésifs.
Oui, complètement. Ça, c'est des travaux, ça a déjà été fait aussi chez des végétaux, mais là, pour les geckos, on a Anthony Herel qui est à Fenévol, donc une équipe de Mécadev, connaît bien ces mécanismes-là. Alors, il y a des choses qui sont parfois chimiques, c'est de l'adhésion, puis il y a des fois, c'est ce que je trouve presque encore plus fascinant, c'est que c'est purement mécanique. C'est juste, entre guillemets, juste, parce qu'on s'arrache des fois les cheveux pour comprendre, mais des questions de positionnement et d'orientation des fibres qui vont faire que ça va adhérer ou pas.
Alors, on évoquait la trompe de l'éléphant, organe peut-être moins polyvalent, sont les organes génitaux. Vous êtes aussi posé cette question avec Sexus Animalus en 2020 aux éditions Artaud, un livre dans lequel on apprend que seuls 3% des oiseaux ont un pénis. Chez la plupart des oiseaux, la reproduction se fait par un baiser cloacal sans pénétration. Alors, après les outils, comment est né ce nouveau sujet d'étude pour vous ?
Ça, c'est une escroquerie. Je vais vous dire la vérité. Ça, c'est une sorte de pari perdu avec des étudiants.
De cap à cap.
C'est un peu ça. C'est dans le bureau des doctorants, je me souviens très bien quand c'est arrivé, ça rigolait beaucoup. Et quand ça rigole, je vais voir et je leur demande. Ils jouaient à un jeu, en fait, où il y avait des. C'est très intéressant d'ailleurs au niveau biologique. Donc le jeu consistait à voir circuler des pénis d'animaux. Il fallait reconnaître l'espèce qui était rattachée à ce pénis. Alors, ça s'appelle pas toujours pénis, mais bon, peu importe. Et donc ils avaient tous des mauvaises notes. Ils avaient 3 sur 20, des 4 sur 20. Et je leur dis, moi, je vais le faire, je vais avoir mieux. Moi, je suis arrivée forte et tout. En fait, je me suis tapé la même banane. Donc, très mauvaise note aussi. Je dis, mais c'est pas possible. On est en biologie de l'évolution, on connaît très mal les organes génitaux. Ça, c'est pas possible, ça. Et donc, bref, on me dit, t'as qu'à écrire un livre là-dessus. Et je dis, chiche. Et en fait, ce que j'ai trouvé encore plus. Alors, effectivement, il y a des trucs incroyables, même chez l'argonaute. Alors, ça ressemble à un petit mollusque. On va faire court, mais il a un... Alors, ça s'appelle pas un pénis, ça s'appelle un ectotile, mais c'est pas grave, qui est détachable. Parce qu'il y a un dimorphisme énorme. énorme, le mâle est tout petit, la femelle est énorme par rapport à lui. Du coup, son pénis se détache pour aller féconder la femelle. Enfin, j'ai appris des trucs de dingue, parce que je ne savais pas tout dans l'ouvrage que j'ai écrit. Mais ce qui a été encore plus révélateur, je trouve, et d'ailleurs je suis très contente, parce que ça y est, il y a des projets, enfin il y en avait déjà, mais il y en a d'autant plus qui démarrent, c'est que les organes génitaux féminins étaient quasiment pas connus. Et là, je me suis dit, comment est-ce qu'on veut comprendre la sélection sexuelle et l'évolution sans comprendre les covariations qu'il peut y avoir entre organes génitaux masculins et féminins. Et là, je me suis dit, OK, va falloir lancer des projets là-dessus. Alors, j'avais lancé un projet sur l'évolution du clitoris, et franchement, c'était fascinant. Pour l'instant, je n'ai pas les sous. Et puis, moi, je suis d'une génération où on n'en parle pas si facilement que ça. Mais alors, dans les jeunes qui arrivent, là, je suis contente. Il y en a qui s'emparent du sujet, et je pense qu'on va progresser dans ce domaine-là.
Sur les projets en cours, en tout cas sur lesquels vous travaillez, vous travaillez en l'occurrence sur la question du portage des bébés, sur les humains comme sur les chimpanzés,
ouais.
et sur le berçage et sur l'éventualité, l'hypothèse en effet, que c'est un impact sur le développement cognitif.
Oui, ça c'est quelque chose que j'ai observé assez tôt, parce qu'en fait, chez les animaux, vous en avez qui sont beaucoup portés dans la bouche quand ils sont petits, hein, ils sont portés dans la bouche de la maman, et parfois ils sont portés sur le corps, sur le bras, sur le dos. Ça peut être les papas, mais c'est souvent les mamans. Et puis, il y a des petits qui s'agrippent à la maman. Et ça, je m'étais dit, la manière dont, au départ, le projet est né de là. Je me dis, un petit qui grandit en s'accrochant à sa maman, il va forcément développer des capacités de préhension très importantes dès le départ. Donc, ça a forcément un lien sur la suite de ses capacités de préhension. Au départ, c'est parti comme ça. Et puis, un jour, avec un autre brillant doctorant, j'en ai eu beaucoup, j'ai eu de la chance, Grégoire s'est rendu compte qu'il y a des mamans, alors là, c'était chez les babouins à l'époque, qu'il y a des mamans qui portaient quasi systématiquement du côté gauche, leur bébé. Et puis d'autres, ça avait l'air d'être plus aléatoire. Il m'a dit, est-ce que tu penses que ça peut être intéressant? Je lui dis, fouille dans la littérature. En général, quand on a une hypothèse naissante comme ça, on va voir dans la littérature scientifique. Donc il est parti regarder et il s'est rendu compte que chez les humains, avait été démontré par certains que quand les bébés étaient portés, en fait, dans la grande majorité des cas, les bébés étaient portés à gauche. Pourquoi ? Parce que pour faire court, ça fait le lien avec l'œil gauche et donc hémisphère droit qui a un lien avec les émotions finalement. Mais que quand les mamans avaient des soucis au moment du portage de ces bébés, des dépressions, etc., il y avait une altération dans le portage. Ça s'alternait en fait. Et donc ce critère du portage était finalement un bon proxy pour détecter des dépressions chez la maman. Et figurez-vous qu'il a observé ça chez les babouins. Et c'était flagrant, il l'a quantifié, et ce qui était absolument vraiment très intéressant, et ça fait le lien aussi avec mes interrogations et mes projets sur le bien-être des animaux en captivité, enfin, ou le moins mal-être en captivité, c'est qu'en fait, les mamans babouins qui étaient dans des enclos hyper stressants, avaient ce même biais de portage, un coup à gauche, un coup à droite, alors que les mamans babouins qui étaient dans un enclos beaucoup plus paisible portaient quasiment systématiquement à gauche. C'est pas en lien avec le cœur, c'est pas en lien avec la latéralité, je précise tout ça, c'est vraiment des liens qui sont faits avec l'état émotionnel de la maman. Du coup, c'est un bon détecteur pour savoir si des mamans babouins vont pas bien. Voilà, vous avez compris.
Cas, on retombe sur nos pattes sur cette idée que l'émotion peut être complètement au cœur des sciences.
Exactement. Ah, mais et c'est mon objectif. On nous enseigne en éthologie, à juste titre, hein, attention, hein, qu'il faut mettre de la distance avec les animaux qu'on étudie, mais de la distance, quand pour bien quantifier leur comportement, mais il n'y a aucune raison de pas éprouver des choses, encore heureux. Donc oui, les émotions au cœur des sciences, les plus beaux projets sont, enfin, mes plus beaux. Je ne sais pas si c'est les plus beaux pour moi, en tout cas. Je ne sais pas si c'est les plus réussis pour la science. Mais les plus beaux pour moi sont ceux qui sont nés de mes émotions, c'est certain.
Par rapport à vos émotions de chercheuse, on arrive vers la fin de cette discussion. Enfin, si, on a quand même encore 3 minutes devant nous et j'aimerais quand même parler de votre parcours, Emmanuel Puydebas. Pour vous, justement, qu'est-ce que c'est un bon chercheur?
Un bon chercheur. Ouais. Pardon, je pense forcément au bon chasseur.
Vous disiez, il fallait oser poser des hypothèses.
En fait, pour moi, je pense que la base, c'est la curiosité, c'est se poser des questions. Je pense que l'observation aussi. On a perdu beaucoup de temps d'observation aujourd'hui. On passe très peu de temps à observer. Tout va très vite. En fait, c'est l'observation, la curiosité. Et oser se poser des questions, et il y a le mot oser aussi. Donc en fait, pour moi, c'est la curiosité, c'est se poser des questions, des milliards de questions. Parce que tout va être tentaculaire. Vous en posez une, il y en a plein d'autres qui vont venir, et c'est oser. Je pense qu'il faut oser. Là, s'il y a des jeunes chercheurs qui nous écoutent, il faut oser. Toute hypothèse est bonne à poser, et les hypothèses positives, s'il vous plaît. Parce que d'emblée, la plupart du temps, encore aujourd'hui, c'est l'objet de mon dernier bouquin, est-ce que les animaux ont un concept de la mort? Est-ce qu'ils ont conscience de la mort de l'autre? D'emblée, les hypothèses, bah non, bien sûr que non. La conscience des animaux, c'est pas la même que la conscience des humains. Bah oui, bah moi je pose l'hypothèse contraire. Je pense, voilà, allons-y vers des hypothèses positives. Oui, certains animaux ont un concept de la mort. Oui, certains animaux comprennent la mort de l'autre. Après, qu'est-ce qu'on met en place pour le démontrer? Ça, c'est autre chose. Mais hypothèse positive.
Voilà. Et par rapport, donc je vais poser des questions, bon chercheur, et puis en tant que chercheuse aussi, quelle difficulté dans ce milieu qui est globalement très masculin?
La difficulté dans ce milieu, alors peut-être de ma génération aussi, peut-être que la suivante, sans doute que les suivantes vont être un peu différentes. La difficulté, c'est effectivement gérer ces projets de recherche et puis toute la diversité qui va avec. Moi, je fais beaucoup de communication dans les écoles, les collèges, les conférences, les livres, voilà, les médias, parce que je trouve ça fondamental. Des scénarios pour des dessins animés sur les animaux. Et puis, faut jongler tout. Ouais, il faut gérer tout ça avec la vie de famille, quoi. À partir du moment où on a un petit bonhomme qui arrive, d'ailleurs, qui est arrivé très tard. Vous voyez, ça c'est très concret. Moi j'ai eu mon fils à 41 ans, voilà, et donc c'est très concret. Il faut s'occuper de tout ça et c'est pas toujours facile à gérer, mais c'est du bonheur tout ça quand même.
Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Aldebo, mais vous dites en effet que le tennis et sa philosophie aussi étaient quelque chose de très important pour votre carrière scientifique. Et donc merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Je rappelle quand même, votre ouvrage vient tout juste de sortir, Les oiseaux se cachent-ils pour mourir? C'est aux éditions Delachaux et Niestlé. Grand merci.
Merci à vous.
Tout de suite. Pour la chronique avec science, on reste dans le monde animal et on s'intéresse aux chiens préhistoriques. D'où vient l'incroyable diversité des chiens? Le chien est une espèce très particulière dans le règne animal. Elle est née du loup gris, du Canis lupus. Le nom scientifique du chien, c'est Canis lupus familiaris. C'est la première espèce domestiquée par l'humain, bien avant les animaux d'élevage ou les plantes. Et on sait que cette domestication a eu lieu pendant le Pléistocène, donc antérieure à 11 000 ans avant notre ère. Mais on ignore toujours précisément où et quand le chien est devenu chien. Autre particularité qui saute aux yeux, le chien actuel présente des morphologies extrêmement différentes. Du chihuahua au Saint-Bernard, c'est bien la même espèce. Et cette diversité n'est pas seulement esthétique, elle est liée aux usages que les humains ont eus du chien pendant des millénaires. Aloëne Evin est bioarchéologue et directrice de recherche CNRS à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier.
La domestication, c'est l'homme qui va sélectionner au fil du temps, au fil des générations, certains individus pour répondre à ses besoins. Et le chien, il a la particularité d'avoir été domestiqué pour énormément de fonctions. Donc, on va penser à la protection, au combat, à la course, mais il y a aussi des fonctions qui sont un peu oubliées, comme par exemple la chaleur. Ils avaient fonction de radiateur. Et puis, la laine. Enfin, il y avait des races qui étaient sélectionnées pour la laine dans le passé. Et puis, les fonctions, ça va être aussi, par exemple, les chiens de traîneau. Donc, le chien, il est intimement lié à de nombreuses sociétés. Et puis, c'est une espèce qui est partout dans le monde. Maintenant, partout où il y a des hommes, il y a des chiens. Et en fait, cette diversité de fonctions, en plus de la diversité qui a été créée pour des raisons esthétiques, fait que c'est très difficile de retracer dans le temps, d'essayer de retrouver les premiers chiens.
Si les premiers chiens ressemblaient vraisemblablement beaucoup aux loups, à partir de quand leur morphologie commence-t-elle à changer? Autrement dit, quand trouve-t-on une preuve visible de domestication dans les os et en particulier dans les crânes? C'est ce qu'a voulu étudier cette nouvelle étude parue dans Science. Et grâce à sa proximité avec nous, on trouve énormément de crânes de chiens préhistoriques dans les sites archéologiques. Mais pour des raisons pratiques évidentes, il est impossible de faire venir dans un même labo tous les crânes de chiens anciens du monde. Alors, ces scientifiques ont fait de la photogrammétrie. À partir d'une simple photo, on peut reconstituer virtuellement une archive numérique en trois dimensions et ensuite faire toutes les mesures que l'on veut. C'est simple, pratique, transportable partout et à faible coût. C'est une méthode qui est d'ailleurs beaucoup utilisée dans les jeux vidéo. C'est ce qui a permis à ces chercheurs et chercheuses d'étudier la morphologie de plus de 600 crânes de chiens datant des 50 000 dernières années. Et résultat, dès 11 000 ans avant notre ère, le chien préhistorique cesse de ressembler au loup et il présente déjà une grande diversité morphologique.
Pendant tout le Pléistocène, donc la période où a dû se passer la domestication, on ne trouve pas de morphologie de chien. Tous ces crânes ressemblent à des loups et que la première morphologie de chien, on la trouve à 11 000 ans dans un site de Russie. Et qu'à partir du moment où on trouve des morphologies de chiens, on en trouve beaucoup et elles sont déjà très diversifiées. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va trouver des chihuahuas, des bulles terriers ou des bulldogs dans le registre archéologique, mais ça veut dire qu'on a une diversité qui est déjà très importante. Et quand on travaille sur les chiens, on fait souvent l'hypothèse que c'est les derniers siècles qui ont mis en place toute la diversité qu'on observe aujourd'hui. Donc ça veut dire que déjà pendant la préhistoire, on avait une diversité de chiens importante qui représente à peu près la moitié de la diversité actuelle qu'on a pu mesurer.
La diversité des chiens est donc bien antérieure aux sélections artificielles modernes. Il y avait donc plein de chiens préhistoriques très différents, 11 000 ans avant notre ère, ce qui oblige à revoir l'idée d'une diversification uniquement récente. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'humain n'était pas déjà proche des canidés avant cela, simplement que ce n'était pas systématique et que ça ne se traduit pas dans les os. Ici, seuls les crânes ont été étudiés, on ne peut pas vraiment dire à quoi ressemblaient précisément ces premiers chiens préhistoriques, on ne peut pas savoir quelles étaient leurs fonctions, s'il y en avait, et si elles étaient les mêmes partout, au niveau local et régional. Et on ne peut pas exclure non plus qu'il y ait eu des sélections naturelles par des changements de l'environnement, par exemple, et non par la main humaine. Vous comprenez donc que les incertitudes sont encore très nombreuses. La suite, ce sera de se pencher, non pas sur les crânes, mais sur les mâchoires, de mener une étude identique avec beaucoup plus de spécimens et de reconstituer le régime alimentaire des tout premiers toutous.
Merci Alexandra pour votre chronique. Depuis cette rentrée à France Culture, on vous propose le fil Culture G. Chaque jour, c'est un coup de projecteur qui éclaire notre actualité. Philo, éco, histoire, science, bien sûr. En 3 minutes 30, du lundi au dimanche, les meilleurs experts mettent notre monde en perspective. Alors tout de suite, le fil science par Evelyne Heyer, professeure d'anthropologie génétique en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle qui nous propose chaque mercredi l'Odyssée des humains.
Pourquoi la reproduction est si difficile chez les humains? On l'ignore souvent, mais la reproduction est compliquée, voire difficile pour l'espèce humaine. Beaucoup plus difficile que chez d'autres animaux. Tout d'abord, chez les femmes, l'ovulation est cachée. Autrement dit, pas simple de savoir à quel moment un rapport sexuel pourra être fécondant. Les femmes elles-mêmes savent rarement quand elles ovulent. On est loin des manifestations physiologiques ou comportementales lors de l'ovulation chez d'autres animaux, que l'on pense au miaulement des chattes en chaleur ou aux danses des oiseaux. Chez les humains, il est donc difficile de savoir quand avoir un rapport sexuel, soit pour tomber enceinte, si l'on veut un enfant, soit pour éviter une grossesse non désirée. Ensuite, une fois qu'il y a eu fécondation, le taux d'avortement spontané est très élevé. On estime que plus de la moitié des ovules fécondés donnent lieu à un avortement spontané. En général, les femmes ne s'en rendent pas compte. Cet avortement est confondu avec un léger retard des règles. Pourquoi ces avortements spontanés ? Actuellement, les chercheurs identifient des risques génétiques. Les ADN reçus de chacun des deux parents seraient plus ou moins compatibles. Par exemple, certaines mutations, lorsqu'elles sont reçues à la fois du père et de la mère, sont délétères. Le fœtus meurt. Une nouvelle piste invoque la compatibilité génétique des gènes de l'immunité du père et de la mère. Si ces premières étapes sont franchies, la grossesse est ensuite risquée pour les femmes. Dans notre espèce, le placenta est particulièrement développé pour alimenter en énergie le cerveau très développé, gourmand en énergie, du fœtus humain. Des dysfonctionnements de ce placenta peuvent entraîner des risques pour la santé de la mère. Bon, heureusement, on sait désormais détecter ces problèmes à temps. Et pour terminer, l'accouchement. Là aussi, il est plus difficile pour notre espèce. Du fait de la bipédie, le canal pelvien par où passe le bébé est réduit chez les humaines. Et comme, au cours de l'évolution, la taille du crâne a augmenté, il faut faire passer une tête de bébé plus grosse dans un canal plus petit. Pas simple. L'accouchement est donc plus compliqué, douloureux et dangereux pour notre espèce. En l'absence de médecine moderne, au cours de sa vie, une femme a une chance, ou plutôt un risque sur 15, de mourir lors de la naissance. Mais comme le dit mon collègue Samuel Pavard, biodémographe, malgré toutes ces difficultés, les femmes humaines restent d'excellentes reproductrices et sont capables de mettre au monde un grand nombre d'enfants en peu de temps. En l'absence de contraception moderne, il est fréquent de voir des femmes mettre au monde plus de 10 enfants au cours de leur vie.
Merci Evelyne Heyer pour ce fil science et merci à vous pour votre écoute.
Et un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchon, Céline Lozen, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Jean-Guy Limège. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.